Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en nos titres et tout protocole observé, c'est avec joie que nous répondons à l'invitation, nous lancer pour être le premier sur l'accordé scientifique de cette activité. Mon propos, nous l'avons voulu simple, avec un plan linéaire et une approche juridique, textuelle et exégète, sociologique, clinique et pratique, et quelque peu comparée. Nous abordons 4 points, dont certains, nous les effleurerons parce que nos prédécesseurs ont été riches en pertinence. Certainement, certaines questions, nous y reviendrons, simplement pour insister. Le premier point, c'est le décorum de l'état de droit démocratique. Le deuxième point, c'est l'impérium de la justice constitutionnelle. Le troisième point, c'est le critérium procédural et processuel de la protection des libertés face à l'état d'urgence et de siège. Et puis, il y aura un addendum, tous les titres sont un peu en latin, théorique, sur le noyau dur de protection formelle et substantielle des libertés. Il nous a été dit que l'état de droit est un idéal, c'est l'alchimie de l'être de l'État et de la raison du droit. Une double approche de cet état de droit fait de sa notion, qu'elle soit formelle ou normative, d'une part, et d'autre part, qu'elle soit substantielle. La forme normative de l'état de droit serait rencontrée lorsque un droit prêche la soumission de la puissance publique aux droits garantissant aux citoyens à travers la norme les droits et libertés de la personne humaine. La forme substantielle de l'état de droit, en revanche, devient concrète dans le fait que les prévisions constitutionnelles et juridiques deviennent une réalité en termes du vécu des libertés, du vécu clinique du pouvoir et du vécu réel de la démocratie. En fait, toute la problématique de l'état de droit peut se résumer dans les mots de Paul Valéry. Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Dans un état de droit, tout le sens du pouvoir qui doit arrêter le pouvoir s'explique dans l'objectif d'empêcher les abus que commettrait un titulaire unique du pouvoir d'État. Toute la théorie encourage inévitablement l'établissement d'un gouvernement libéral et c'est là qu'il s'ajoute le mot démocratique pour faire état de droit démocratique qui rehausse le fondement de la subordination du pouvoir politique à la norme juridique, ce qui n'est qu'un trait de l'état légal dont a parlé le prof Bocconi dans sa séance inaugurale, et d'autre part de l'optimisation de la justice qui fait de cet état de droit un état de justice, mais aussi l'organisation et l'exercice du pouvoir bien encadré, de même que la protection et la promotion des libertés. De manière simple, une triptyque de l'état de droit qui est un idéal, ce serait qu'il est égal à l'état légal, plus l'état de justice, plus la démocratie et les libertés. Ce serait cela l'idéal. L'état de droit, c'est donc le gouvernement des lois et non des hommes. Dans cela, il peut avoir un état légal, mais avec des lois qui sont liberticides. Il y a eu une démocratie en Grèce, mais elle fut une démocratie esclavagiste, parce que il y avait des ilotes, il y avait des personnes qui n'étaient pas libres. Et la démocratie dont on parle même en Grèce était une démocratie qui était sur les classes sociales. Nous avons également connu d'autres États que le professeur Kayamba Tamba a parlé de pouvoir kaki, qui était très friand de la norme, mais toutes les normes, toutes les lois étaient tournées autour de la consolidation du pouvoir d'une seule personne. Donc, il faut introduire dans l'état de droit la conception des libertés. Donc, dans la conception des libertés, non seulement comme limite à l'action politique et administrative, mais aussi comme fondamentalisation des droits des citoyens. La position des jus naturalistes est intéressante et j'ai été content d'écouter la tradition juridique suisse à laquelle on essaiera aussi de donner quelques-unes de nos recherches parce qu'on est comparatiste. Les jus naturalistes considèrent qu'au-dessus du droit positif, c'est-à-dire du droit posé par l'État, il y aurait un naturel qui s'imposerait à lui. Et donc les libertés ne seraient donc pas affirmées par les textes parce que les libertés sont méta-juridiques. Qu'on les énonça ou qu'on ne les énonça pas, elles existent parce que c'est des principes allégoriques qui sont inhérentes à l'existence de la vie humaine. Toujours est-il que l'état de droit, si elle se limite à l'état légal, obturerait les caractéristiques des états libéraux et démocratiques, comme on a pu l'entendre avec l'expérience suisse, où le peuple garde la possibilité des référendums abrogatoires, des référendums également révocatoires. En somme, pour finir ce premier point du décorum, définir l'État, c'est bien définir le droit. Les normes morales et politiques dont les droits fondamentaux constituent la traduction résultent de la convergence du libéralisme politique et de la démocratie et de l'état des droits. Les droits de l'homme sont donc l'émergence et l'affirmation d'un mouvement qui à la fois considère des droits fondamentaux et en constitue la juridicisation la plus élevée. Et ces mots sont de lui favorables. Et donc on verra dans l'impérium de la justice constitutionnelle, qui est le deuxième point, que les cours constitutionnelles, dans leurs racines et dans leur histoire, ne sont pas forcément celles qui résultent d'un libéralisme politique qui serait lié préalablement à des États autoritaires, puisque, comme on le verra, beaucoup de cours constitutionnelles en Europe jouent maintenant des rôles où la démocratie représentative écrase l'opposition, comme en Allemagne et comme en Espagne, où la Cour fédérale allemande est devenue pratiquement le balancier de la vie politique en faisant haro aux lois d'une majorité trop écrasante qui se serait passée pour des lois à volonté générale, mais qui ne sont que des lois à volonté majoritaire. L'impérium, donc, de la justice constitutionnelle. Au terme de l'article 150 de la Constitution, le juge est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. La Constitution de notre Troisième République a spécialisé les deux ordres des juridictions administratives et judiciaires. Il y a un débat là-dessus. L'exposé de motifs de la Constitution dit qu'il y a trois ordres de juridiction, mais techniquement, là où moi j'ai appris, avec les différents doctrinaires, là, il y a deux ordres de juridiction, plus... Voilà, la Cour constitutionnelle elle-même. Alors, je n'entre pas dans le débat, peut-être qu'on en discutera, mais le juge judiciaire intervient également dans la protection des libertés. Si vous lisez le traité de droit constitutionnel congolais du professeur Essambo, doctrinaire mais présent ici, figure tutélaire du droit constitutionnel, vous vous rendrez compte que celui-ci veille à une liberté, la liberté d'aller et de venir, lorsque il faut vérifier en chambre du conseil les conditions de détention. Mais aussi avec la constitutionnalisation de l'ensemble des branches du droit, lorsque le juge judiciaire dit le droit de propriété, en fait il veille au droit à la propriété, qui est une liberté garantie, d'où j'ai été content d'écouter son Excellence Camus l'État dire que... J'ai bien appris. Dire que aujourd'hui, la Cour constitutionnelle s'est dit que tout fait qui, même judiciaire, entrerait dans l'ordre de ce qu'on ne peut pas juger parce qu'il n'y a personne qui peut se saisir de cette atteinte à la liberté, la Cour l'a prise. Oui, c'est métajuridique. Alors, la Cour constitutionnelle, le juge administratif, on a parlé du juge judiciaire, le juge administratif, lui, il est aussi un gardien de liberté, avec le référé liberté, qui, comme le mot le dit, protège les droits et libertés fondamentaux mis en péril par un doute sérieux de l'égalité des actes administratifs, avant même qu'on en juge, dans le fond, et aussi par l'urgence que la justice doit pouvoir se déployer dans son action face à tel péril pour provoquer, pour préserver les droits et libertés fondamentaux du citoyen. Mais plus loin, Charles Eisman dit même que le juge administratif, dans l'interprétation de la loi, a la compétence d'influer sur la création d'une norme juridique par son activité jurisprudentielle, faisant de lui la figure centrale dans l'établissement de cette norme. Quant à la Cour constitutionnelle, la doctrine a considéré que si le juge ordinaire peut s'autoriser de jouer un rôle de premier plan dans la protection des droits et libertés individuelles, le juge constitutionnel l'est davantage en sa qualité de gardien de la Constitution et des droits qui y sont consacrés. Et tout récemment, il y a des jurisprudences de la Cour constitutionnelle, comme l'affaire au Congo central, qui ont été motivées par la protection de l'état de droit. Il existe plusieurs modalités de saisine, ces techniques, je n'y entre pas, vu le temps, mais je voudrais évoquer un arrêt, d'un des premiers arrêts phares, sous R. Const 356, du 10 mars 2017, en cause, Cyprien Lomboto Lombongue, gouverneur de la province de la Chuapa, demandeur en inconstitutionnalité contre l'Assemblée provinciale de la Chuapa, sur sa requête du 31 octobre 2016, la Cour constitutionnelle s'est forgée dans ses premiers arrêts. Ça a suivi Chibalonza, ça a suivi Kankonde, ça a suivi, c'est là que la pierre blanche a été fondée sur l'appropriation, vraiment, et la concrétisation par la Cour constitutionnelle de sa mission dont on a parlé à l'article 150. Alors, la Constitution de la Troisième République a désormais inscrit les missions du juge constitutionnel au sein du pouvoir judiciaire. Ah, ça c'est intéressant. Nous sommes en avance parce que en France, il y a une autorité judiciaire. Et le Conseil supérieur de la magistrature connaît à son sein des personnes qui ne sont pas de la magistrature. Y compris encore que le président de la République française est le garant de l'indépendance de la justice en France. Mais nous, le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Bien entendu, il y a eu une révision constitutionnelle, l'article 149, à laquelle on avait participé et où il y a eu ablation des cours et tribunaux ainsi que les parquets y rattachés. J'ai vu l'honorable Boris Moukou et désormais, les cours et tribunaux sont là dans le pouvoir judiciaire, mais il y a eu cette ablation. N'a-t-on pas touché à l'article 220 de la Constitution qui dispose que toute révision de Constitution qui tendrait à réduire les prérogatives des provinces et l'indépendance de la justice est substantiellement interdite. Jusqu'à présent, le président de la Cour constitutionnelle est là. Il n'y a pas encore eu de compétence affirmée comme au Bénin sur la Cour constitutionnelle qui contrôlerait les lois de révision. Si ça vient, on saura l'enseigner aux étudiants en classe. C'est l'occasion de dire qu'il y a deux approches. Et là, je voudrais quand même, je n'avais pas voulu aborder ça, je suis allé ouvrir mes notes, parce que, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, lire, c'est voyager à moindre frais. J'ai visité votre pays, j'ai fait 35 pays dans le monde, mais je dois quand même essayer de partager pour dire, est-ce que c'est que j'ai lu, venant du greffier André Giomini, du Conseil scientifique du Tribunal fédéral suisse dans le cahier du Conseil constitutionnel numéro 18 de juillet 2005. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai en face de moi meilleur ambassadeur avec qui on pourrait voir la véracité de nos recherches. En Suisse, le Tribunal fédéral est une autorité judiciaire suprême permanente depuis 1874. Sa tâche première de Cour suprême est d'assurer une certaine cohérence dans l'application des différentes normes cantonales, dans le respect des droits fondamentaux et le développement des garanties des procédures sur l'ensemble du territoire national. Le greffier de ce tribunal fédéral écrit dans un cahier prestigieux du Conseil constitutionnel français que désormais des attributions augmentées au fil des évolutions politiques et juridiques et sociales et la montée en importance de la législation fédérale au détriment de lois cantonales fait que le tribunal fédéral a pour tâche de juridiction constitutionnelle des compétences de contrôle de la bonne application du droit civil, du droit pénal et administratif fédéral. Nous avons deux modèles, celui de contrôle diffus de la constitutionnalité avec les cours suprêmes et vous montez comme aux États-Unis, et on a le modèle de contrôle concentré. Mais quel en est le mérite? Les traditions juridiques peuvent différer. Les juges, on lui donne les faits, il rend le droit. Devons-nous nous dire qu'il y a inutilité d'avoir une cour constitutionnelle du fait que sur une espèce, en comparaison, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des verdicts assez différents? Gérard Connac soulignait le fait que lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est organisé dans un État en Afrique, les décisions du juge constitutionnel sont automatiquement hissées au sommet de l'édifice jurisprudentiel. Et Bertrand Mathieu souligne la vertu d'avoir une justice constitutionnelle dédiée en disant, en épinglant entre autres, que le développement d'un droit fondé sur les droits et libertés fondamentaux, la pénalisation de la vie politique et sociale, la circulation de la jurisprudence, la régulation des rapports entre les ordres juridiques. On a eu un arrêt dans l'affaire Feck-Yuma. Même si cet arrêt faisait un règlement de conflit d'attribution entre le Conseil d'État et un tribunal de grande instance, c'est que la Constitution ne dit pas. Tout de suite, il lui fallut un conflit entre de compétences entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Mais seulement, on s'est rendu compte de l'importance. Oui, c'est la matérialité de la décision qui compte et pas simplement sa forme. On avait deux jugements, un arrêt, une ordonnance et un jugement de deux ordres différents qui se contredisaient pour les élections au niveau de la FEC. Il a fallu qu'il y ait, et nous le saluons, une cour constitutionnelle pour éviter cette défiance, cet télescopage des droits dits dans un même pays par deux juges différents de manière contradictoire et les partis sont prévalents, chacun de l'application. Je voudrais également dire, peut-être je demanderai deux minutes à ne pas décompter de mon temps, je n'avais pas voulu le dire, mais j'enseigne l'histoire du droit. Et nous, notre histoire du droit pour avoir la Cour constitutionnelle, c'est déjà 1960. La Cour constitutionnelle était prévue dans la loi fondamentale de 1960 et il y avait une chambre de constitutionnalité, d'une chambre des conflits et d'une chambre d'administration. C'est l'article 226 de la loi fondamentale. De manière transitoire après l'indépendance nationale, sa compétence fut dévolue au Conseil d'État de Belgique. La constitution du 1er août 1964, dite de Luluabou, avait aussi prévu la Cour constitutionnelle parmi les institutions nationales et à côté du président de la République, du gouvernement dirigé par un Premier ministre, du Parlement composé de deux chambres et des cours et tribunaux, en même temps une Cour suprême. On avait les deux dans la constitution de Luluabou. Une Cour suprême et une Cour constitutionnelle. Seulement, La Cour constitutionnelle de 1964 voyait ces 12 conseillers devoir prêter serment en présence de la Cour suprême de justice, et c'était la section judiciaire de la Cour suprême et non de la Cour constitutionnelle qui était censée être le juge pénal du chef de l'État. L'histoire que nous avons est un rattachement à la tradition judéo-chrétienne qu'on appelle romano-germanique, et l'arrimage de notre droit, de tout notre droit, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, c'est fait, comme Rials le dit, par trois choses. La première chose, c'est la transplantation. On nous a imposé des structures. La deuxième chose, c'est le mimétisme. Lorsque nous sommes devenus indépendants, on n'a pas révisé. Je me souviens du prof Bayona, mon prof, qui était dans le centre de réforme du droit congolais de Sisiba, centre de civilisation bantou. Et puis la troisième, c'est la réception souverainiste. Nous adhérons à l'OADA, nous adhérons au protocole de Maputo sur le droit à la libre disposition des femmes à pouvoir avorter. Mais c'est nous qui sommes embarqués dans cette tradition. Avons-nous dans les tripes de notre, excusez-moi du terme, dans le creuset de notre philosophie de vie en tant que peuple, une originalité lorsque nous sommes souvent embarqués? Le troisième point, et l'avant-dernier, je vais y aller très vite, c'est le critérium procédural et processuel de protection des libertés face à l'état d'urgence et de siège, avant de faire le quatrième point qui est un addendum. Si on me dit de ne pas le faire, l'addendum ne sera plus un addendum, j'arrêterai. Mais c'est le noyau dur de la protection des libertés. On a eu un arrêt. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature l'a dit avant de descendre. Lui n'a pas dit lutrin, il a dit chair. Bon, moi, je ne suis pas pasteur, je ne sais pas. Devant ce pupitre, bon, c'est plus neutre. Il a dit que lorsque les jurisprudences sont posées, on apprécie la valeur. Peut-être des temps plus loin avec la fameuse décision Marbury qui a instauré ce que nous tous nous disons souvent, les gouvernements de juges. Mais nous sommes le 13 avril 2020, lorsque sous R. Const 1200, au sujet de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 2014 du 24 mars 2020 pour répondre Covid, il y eut un débat juridico-politique très soutenu. Il y avait ceux qui disaient qu'il fallait passer par l'article 119 de la Constitution afin qu'il y ait eu un congrès qui autorisa le président de la République à pouvoir prendre cette ordonnance d'état d'urgence. Et ils ajoutaient à cela la critique que l'ordonnance d'état d'urgence devrait être double. Une première qui serait une proclamation de l'état d'urgence et une deuxième qui organiserait justement les libertés dans ce sens-là. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle que m'avait fait acheter, et je dois l'évoquer, mon maître Évariste Bouchard, à l'époque, je l'ai encore. Il dit, mais regardez, il y a dans la Constitution, on le découvre, l'article 85 qui dit que le président peut. Et l'article 119 qui, dans la liste des matières du Congrès, point 3, dispose qu'il faut une autorisation. Et il y a une jurisprudence qui, R. Const 1200, qui, examinant le fond de cette ordonnance, a d'abord, un, révélé qu'elle ne violait en rien la Constitution. Aussi, la Cour dira conforme à la Constitution les visas de l'ordonnance. L'article 2 de cette ordonnance a trait aux mesures sécuritaires sur le territoire national et comprend trois points. Il ne déroge pas à la Constitution. L'article 3 a trait aux mesures relatives à l'exercice de la liberté. Il ne déroge pas à la Constitution. Le juge est entré dans le débat pour réguler tout le débat qu'il y avait. Les grands constitutionnalistes que j'ai toujours adulés étaient montés au créneau. Certains disant même que le Congrès pouvait prendre une loi d'autorisation de l'état d'urgence. Ce dont je ne suis pas d'accord, le Congrès n'a aucun pouvoir législatif. Il a un pouvoir de révision, mais aucun pouvoir législatif. S'agissant d'un état d'urgence sanitaire, le fait que l'ordonnance susvisée proclame à la fois l'état d'urgence et énumère les mesures irrelatives d'application immédiate pour l'intérêt général de protéger la santé des populations congolaises ne déroge en rien à la Constitution. Désormais, nous avons une jurisprudence parce que l'état de siège a également comme siège le même article que l'état d'urgence et la modulation par ordonnance du président de la République pour prendre l'état de siège ou l'état d'urgence dépend finalement des mêmes raisons. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé en termes de liberté par rapport à cette ouverture avant d'arriver à l'état de siège pour les leçons apprises et peut-être l'addendum, si on m'autorise sur le noyau dur? Il est un fait que l'état d'urgence, l'état d'urgence n'est pas égal à l'état de siège parce que l'état d'urgence est un renforcement des mesures de police. Alors que l'état de siège fait une substitution des pouvoirs de juridiction civile par le pouvoir des juridictions militaires et en matière répressive, naturellement, et renforce davantage les questions de gestion qui font que le droit de l'état de siège met en veilleuse le droit électoral provincial. Imaginons que l'état de siège ait été proclamé après les élections, au nom de la démocratie du peuple, sur toute l'étendue du territoire national, et que le Parlement, avec son Congrès, n'ait pas eu à se prononcer. Mais ce n'est qu'une hypothèse. C'est ça, la question de la régulation et de la mesure qui est prise. Mais on a remarqué qu'avec la prise de l'ordonnance par le président de la République sur de l'état de siège, les deux ordonnances numéro 2115 et 2116 de mai 2021, il y a eu un peu plus d'urgence. Normalement, c'est l'autorité qui prend l'ordonnance, qui toute affaire cessante, saisit la Cour constitutionnelle. Pour l'état d'urgence, on a mis 2 semaines à saisir, mais pour l'état de siège, il n'y avait eu que 48 heures. Et l'arrêt 1550 de Airconst 1550 a repris les mêmes dispositions en disant le président a la faculté de recourir à l'article 85 ou 119. Mais on a vu que dans les deuxièmes ordonnances sur l'état de siège, l'autorité qui a pris cela a pris le soin de dissocier, même si dans le Airconst 1200, il lui avait été dit que ce n'était pas mauvais de pouvoir associer, mais techniquement, il a pu dissocier la proclamation de l'état de siège avec les mesures restrictives de liberté. Je suis enfin à mon addendum, si votre honneur, merci, me l'accorde respectueusement. Et me chronométrant moi-même, je suis à 25 minutes. Nous sommes à l'article 61 de la Constitution qui dispose, et c'est l'addendum du noyau dur, il est enseigné qu'il n'y a pas de hiérarchisation entre les libertés publiques, bon, il y a une différence technique, on n'y revient pas, et les droits fondamentaux. Ceux de la première génération civile et politique, ceux de la deuxième génération économique et sociaux, ceux de la troisième, les droits collectifs. Et maintenant, il y a des quatrièmes générations qui apparaissent. C'est le droit aux libertés numériques. Depuis un moment, couper l'accès à Internet est devenu une violation des droits. Le Togo a été condamné par une juridiction africaine, en ce sens. Et il y a aussi tout ce qui est mariage pour tous aujourd'hui, qui vient et qui monte dans le sens de dire, bon, c'est la quatrième génération de liberté. Bon, il y a aussi le droit de l'environnement. Mais il est écrit en aucun cas. Et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, le principe de la légalité des infractions et des peines, les droits de la défense et le droit de recours, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il n'y a pas dedans la liberté de manifestation. Donc quand on interdit la manifestation sous état de siège, c'est parce que il y a, on ne peut pas dire une sous-catégorisation, mais il y a les noyaux durs des libertés. Ceux qui sont, celles qui sont indérogeables, c'est celles-ci, même en cas de situation exceptionnelle, contrôlable bien entendu par la Cour constitutionnelle, et il y a des droits fondamentaux qui, eux, sont dérogeables. C'est de ce noyau dur-là dont il est question. Alors, parmi ces noyaux durs, il y a, et on laissera cette question à la réflexion, il y a le droit à la défense et le droit de recours. Il y a eu un article 3 dans l'ordonnance d'état de siège qui était en liaison avec l'article 156 de la Constitution qui dispose « Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale en temps de guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé, le président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée des infractions qu'il fixe, l'action répressive des cours et tribunaux de droit commun au profit des juridictions militaires. » Certaines juridictions civiles, je suis ici en face du procureur général près de la Cour de cassation, il a fallu une autre ordonnance en 2022 pour venir un peu réajuster l'élan un peu trop avancé de l'ordonnance qui avait établi l'état de siège. Je finis par ces mots que je vais lire parce que c'est ma conclusion. Depuis belle lurette, l'état de droit se construit. Il se renforce avec le temps. Il s'améliore à l'aide de la justice. La démonstration en est largement fournie dans les abondantes chroniques de justice pénale et justice constitutionnelle depuis la mandature présidentielle 2019-2024. Regardez seulement le RP001 de la Cour constitutionnelle et maintenant le RP002. Quand vous regardez la motivation qui a permis de quitter la Cour, d'aller au Conseil d'État et de revenir à la Cour, c'est au nom de la liberté. On a dit comment un justiciable peut ne pas avoir de juge naturel. C'est magnifique de lire cette jurisprudence. Qu'on en soit d'accord en doctrine ou pas, mais le raisonnement du juge est magnifique. Il y a un dépassement d'optique à opérer, et je ne lis pas toute ma conclusion. Le consensus ne devrait pas rester minimaliste, mais son minimum théorique porte sur trois idées. La limitation du pouvoir, le contrôle de chaque acte par rapport à des actes hiérarchiquement supérieurs, la possibilité de saisir un juge indépendant agissant au nom des libertés, y compris contre l'État lui-même. Voilà, je vous remercie de la patience que vous avez eue à nous acquitter.
Merci.
Merci.
Je vais inviter le deuxième intervenant, il s'agit du professeur Kayapa Tchitchi-Douba, de l'UFM. Qui est le professeur Kayapa Tchitchi-Douba? Il est docteur en droit, mention droit constitutionnel de l'UNED de Madrid,
en France. Je vais laisser mon téléphone là-bas.
Également.